Imaginez un peu, presque 20 ans où, en France, la richesse par habitant fait du surplace, pendant ce temps, ailleurs, elle double. C'est pas de la fiction, hein. C'est une des réalités post-2008.
Aujourd'hui, on va explorer ensemble les effets vraiment durables de cette crise financière. On va s'appuyer sur des analyses notamment tirées du livre 2008 de Pierre Jovanovic. Le but, comprendre comment cette crise qui a démarré il y a plus de 15 ans maintenant continue de peser sur notre économie, nos retraites et même notre quotidien, là, en 2025. Alors, on y va ?
Oui, tout à fait. Et point important dès le début. La crise, ce n'est pas juste Lehman Brothers en septembre 2008. Non, les tensions, on les sentait déjà fort dès l'été 2007.
Le marché interbancaire était quasi bloqué. On a eu des signaux, comme la fermeture de fonds chez BNP Paribas. C'était bien plus profond qu'un simple truc américain, quoi. Et au cœur de tout ça, il y avait ces fameux subprimes. Alors, pour faire simple, c'est quoi exactement ?
Des prêts immobiliers risqués, c'est ça ?
C'est ça. Des prêts accordés à des ménages américains pas très solides financièrement. Mais là où ça devient vraiment explosif, c'est quand on les a titrisés.
Titrisés, c'est-à-dire ?
En gros, on prend des milliers de ces prêts un peu pourris, on les mélange, on les découpe en parts, un peu comme un gâteau financier complexe, et on revend ça comme de nouveaux produits. Le problème, c'est que ça a complètement masqué le risque initial et ça l'a dispersé partout dans le système financier mondial. Jusque dans des banques européennes, des fonds de pension.
Ah oui, d'accord. Et les conséquences, on imagine ? Énorme ! Les chiffres donnent le vertige, on parle de 5 000 milliards de dollars de pertes au début, peut-être même beaucoup plus. Absolument, et c'est probablement sous-estimé. Ce qui est assez frappant, vous voyez, c'est à quel point ça s'est diffusé. Au-delà des grandes banques qu'on connaît, on a vu des pertes chez, par exemple, la caisse de retraite d'une église luthérienne aux États-Unis ou celle des fonctionnaires du Mississippi. Le risque était vraiment partout.
Incroyable. Et pour les citoyens, alors, l'impact direct ? On parle souvent d'un appauvrissement général, non ?
Les sources qu'on a consultées montrent bien cette stagnation du PIB par habitant en France depuis 2008. Rien à voir avec les États-Unis sur la même période. Il y a cette image un peu choc. Si le SMIC avait suivi l'inflation du prix du timbre, il serait à 5400 euros aujourd'hui. Bon, c'est théorique, mais ça marque l'esprit.
Oui, c'est une image qui parle sur la perte de pouvoir d'achat relative. Et cette stagnation économique, ajoutée aux pertes énormes des fonds de pension, que ce soit directement à cause des subprimes ou indirectement via la chute de la bourse, eh bien, ça met une pression terrible sur nos systèmes de retraite par répartition. Du coup, ça alimente forcément les discours pour repousser l'âge de départ. On parle de 70 ans, parfois même 80 ans, comme ça a été voté au Danemark.
Et c'est dans ce contexte qu'on voit aussi la promotion de la retraite par capitalisation gérée par des géants comme BlackRock. Mais bon, ces systèmes-là aussi ont montré leurs limites pendant la crise, n'est-ce pas ?
Tout à fait. C'est assez ironique de promouvoir ça alors que la crise a montré que même des fonds réputés très prudents, certaines sources disent même ceux du FBI ou de la NSA, ont perdu gros. Que ce soit avec l'affaire Madoff ou simplement la chute des marchés comme le Dow Jones. La crise a vraiment montré la fragilité de tous les systèmes, en fait. Il y a cet économiste Nouriel Roubini qui a parlé de « hold up », une formule forte. L'idée, c'était « on privatise les gains avant la crise et après, hop, on socialise les pertes ».
Les plans de sauvetage énormes, les 700 milliards aux USA, par exemple, ça a fait grincer des dents. Certains disent que ça a surtout payé des bonus dans les banques, pendant que des millions de gens perdaient leur boulot, leur maison.
Oui, et puis, il y a le rôle trouble de certains acteurs financiers, qui est souvent pointé du doigt, les agences de notation, Moody's, S&P. Comment ont-elles pu donner des notes AAA, la meilleure note possible, à des produits qui étaient en fait des produits poubelles ? Ça reste une grosse question. Et puis, certaines banques, bon, il y a eu des accusations très graves. Parier contre leurs propres clients ou aider un pays comme la Grèce à maquiller ses comptes, avant de spéculer sur sa chute.
Et tout ça, ça a eu des échos très concrets chez nous en France, même au niveau local.
Ah oui, l'affaire Dexia, c'est l'exemple parfait. C'était une banque très importante pour les collectivités locales, les mairies, les régions. Elle s'est retrouvée au bord du gouffre à cause de ses produits toxiques. Son sauvetage a coûté très cher à l'État, donc à nous tous, et ça a mis en difficulté beaucoup de communes qui avaient souscrit des emprunts devenus incontrôlables.
Face à un tel désastre, on aurait pu imaginer des réformes fortes. Par exemple, séparer les banques de dépôt des banques d'affaires, un peu comme après la crise de 1929 aux États-Unis. Pourquoi on n'a pas fait ça en Europe, hein ?
D'après les analyses, il semble qu'il y ait eu un lobbying bancaire très efficace et puis des désaccords politiques entre les pays européens. Certains craignaient aussi que ça affaiblisse les banques européennes face à la concurrence mondiale. Disons que la volonté politique de vraiment tout changer, elle s'est un peu heurtée à des murs.
D'accord. Donc, si on essaye de résumer tout ça, la crise de 2008, c'est clair, c'est pas juste une vieille histoire dans les livres. Ses mécanismes, et surtout ses conséquences, les sauvetages bancaires qui pèsent encore, la pression sur nos retraites, la stagnation économique que beaucoup ressentent, tout ça, c'est très présent, encore aujourd'hui en 2025.
Absolument. Et il faut ajouter qu'elle a aussi changé des choses au niveau géopolitique. La méfiance envers le dollar, envers les actifs financiers occidentaux, ça a poussé des pays comme la Chine ou la Russie à se tourner davantage vers l'or physique, par exemple, plutôt que les bons du trésor américain. C'est pas anodin comme changement.
Alors, pour terminer notre discussion...
Peut-être une dernière réflexion, oui. Cette crise, elle a montré de façon assez brutale comment des pertes nées dans le secteur privé, dans la finance, ont pu finalement être épongées par l'ensemble de la société via les plans de sauvetage. Et ça nous ramène à une question fondamentale, toujours d'actualité. Comment on assure une répartition plus juste de la richesse créée entre le capital et le travail? Et quel devrait être le vrai rôle social de la finance dans nos sociétés modernes? C'est une vaste question, mais essentielle.